Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Bonjour à toutes et à tous. Prix Goncourt 2007 pour Alabama Song, Gilles Leroy revient régulièrement sur les terres américaines puiser son inspiration. Après le portrait de Zelda Fitzgerald, Nina Simone ou Zola Jackson, elle issue de son imaginaire, il s'intéresse dans son nouveau roman à deux acteurs amoureux à Hollywood dans les années 50. Écrivain de la marginalité, du singulier, de l'universalité, Gilles Leroy publie donc Dans les Westerns aux éditions Mercure de France et nous en parlons tout de suite. Bonjour Gilles Leroy.
Bonjour Catherine.
D'où est venue l'envie d'écrire en creux le portrait d'un acteur beau et talentueux dans l'Amérique des années 50 qui éclate sur grand écran dans les westerns et dont la vie privée ne peut pas se dire au grand jour car l'époque n'admet pas l'homosexualité?
Au départ, j'avais envie de parler de cinéma parce que c'est quelque chose qui a terriblement compté dans ma vie. Je m'en suis aperçu avec le temps, avec les années, j'ai réalisé à quel point le cinéma avait été formateur pour moi, autant que les livres, je crois, à parts égales. Et donc, j'avais envie d'écrire sur le cinéma, d'écrire une histoire d'acteur, parce que je connais quelques acteurs, j'aime beaucoup les acteurs. Et voilà, c'était un ensemble de choses. Je crois qu'on se lance jamais dans l'aventure d'un livre pour une seule raison, il y en a toujours plusieurs. Et puis, il y avait aussi cet autre aspect des choses, qui est la difficulté que j'ai pu voir autour de moi pour les acteurs de vivre leur homosexualité, le cas échéant, quoi. Ça reste, bizarrement, dans ce milieu qu'on dit ouvert à tout, ça reste un énorme tabou.
Et donc là, nous sommes dans les années 50, alors c'est une période charnière parce que à la fois l'Amérique incarne la liberté et en même temps elle refuse les libertés individuelles.
Ah ben c'est l'Amérique dans toutes ses contradictions, quoi. C'est le rêve américain et son cauchemar. C'est vrai que cette fin des années 40, début 50, où commence le livre, on est en plein macartisme, pour aller au plus court, disons que c'est la chasse aux sorcières, mais nous en France on croit toujours que ça a duré quelques années, le temps de McCarthy. Le problème c'est que cet esprit-là de traque des gens de gauche, mais aussi des gens déviants, des homosexuels et tout, ça a duré pendant 10-20 ans, et ça a duré encore jusqu'à très très récemment. Je veux dire par là que les acteurs, les producteurs, les scénaristes ont toujours été espionnés par le FBI, depuis toujours. Et donc ils se soumettaient plus ou moins aux règles, il y avait des commissions de censure qui dealaient, on peut dire, avec c'est-à-dire que les ligues de vertu dealaient avec les studios, les grands studios, afin que les scénarios soient travaillés dans le bon sens, quoi, dans le sens des bonnes valeurs américaines. Et voilà, c'est ce portrait d'une Amérique que j'ai voulu décrire et qui est à la fois la grande Amérique du cinéma et l'Amérique de la terreur aussi, il n'y a pas d'autre mot, parce qu'il y a une vraie terreur à cette époque.
Donc c'est le portrait de cet acteur qui s'appelle Robert Lockhart. Oui. Alors je le dis tout de suite à nos auditeurs, c'est un personnage qui est sorti de votre imagination, qui n'a pas existé.
C'est-à-dire que dans ce milieu du cinéma que je décris, tous les personnages secondaires sont réels.
Oui.
Les acteurs portent leur vrai nom, que ce soit John Wayne, Monty Clift, Liz Taylor, etc.
Marlon Brando,
tout le monde bien sûr porte son vrai nom. Et les protagonistes, eux, sont entièrement fictifs. Je les ai donc créés et je leur ai inventé des noms qui ne diront peut-être rien aux auditeurs. Mais voilà, il faut savoir que les quatre personnages qui sont les personnages centraux de ce livre et qui parlent dans le livre sont imaginaires.
Mais est-ce qu'il a été inspiré de plusieurs acteurs que vous avez aimés, ou est-ce que vous avez pensé à quelqu'un en particulier en décrivant le parcours qu'on va détailler de Bob?
Ben pour Bob Lockhart, j'ai pensé à... Il est écossais, hein,
Oui.
Alors j'ai pensé à ces acteurs américains qui en fait venaient de Grande-Bretagne, que sont Cary Grant, mais aussi plus tard Sean Connery. Voilà, physiquement, c'est ça, c'est cette espèce de grand brun ténébreux.
Et très beau, donc.
Beau gosse, physique, voilà, très physique.
Et talentueux aussi.
Et très talentueux, voilà.
Donc l'histoire de Bob nous est racontée de nos jours. Il se trouve qu'un auteur français dont on ne sait rien, ni le nom, ni l'âge, ni le profil, mais qui écrit un livre sur Robert Lockhart, lequel est en train de vivre d'ailleurs ses dernières heures, et ce français rencontre les trois personnes qui ont le plus compté dans la vie de l'acteur: Paul Young, son grand amour, Joan Ellis, sa meilleure amie, et Lenny Lieberman, son agent. Et c'est vrai que chaque témoignage est un peu comme une pièce de puzzle, compose un milieu, une époque, une société avec la censure, l'autocensure. Et c'est l'âge d'or du western. Cela dit, Gilles Leroy, à cette époque, il y avait aussi d'autres genres cinématographiques en vogue, la comédie, le film noir, voire les péplums. Donc en quoi le western, qui est effectivement un genre particulièrement viril, vous semble-t-il plus intéressant que les autres?
C'est-à-dire que là, c'était vraiment pour caractériser un peu l'époque, c'est vrai, mais aussi pour mettre face à face les deux personnages, Paul et Bob, qui doivent être dans une situation de rivalité, puisque dans ce western, dans le scénario du western, ils sont des frères ennemis.
La piste héroïque, là encore, c'est un film inventé.
Ah, c'est un film que j'ai inventé, dont j'ai inventé le scénario,
le
la production. Je raconte le tournage.
Détails, mais oui, bien sûr. N'existe pas.
Il n'existe pas. Et donc voilà, j'ai inventé ce scénario de western, mais comment vous dire, en me référant à des grands schémas du western, hein, les deux ennemis, donc, qui se disputent le cœur d'une belle. En l'occurrence, la belle, c'est Joan Ellis. Peut-être que j'ai choisi le western aussi parce que c'est ce qu'il y a sans doute de plus factice. Dans la mesure où c'est déjà du film historique à l'époque, et où tout le monde est en costume, où les rôles sont donc très caricaturaux, on peut dire, distribués de façon très caricaturale, et que, voilà, le western est peut-être aussi ce qui symbolise le mieux l'ambiguïté masculine à l'écran, parce que c'est souvent dans les westerns, ce qui me frappe, c'est que ces hommes qui sont censés se combattre ont parfois des relations presque ambiguës, à force de virilité, on va dire, quoi.
Et vous-même êtes amateur de western, Gilles Leroy?
Moyennement, très moyennement. Je suis plus amateur de comédies comme celle de Caputon et Cary Grant, par exemple, mais et aussi et surtout de Mello. Et ce qui est assez là où je me suis amusé en choisissant comme titre dans les westerns, c'est qu'en fait le livre lui-même dans sa composition et dans son ton fait plutôt hommage et référence au grand Mello des années 50 et à ceux de Douglas Sirk notamment, dont il est question pas mal d'ailleurs dans le roman.
Mais il y a quelque chose de subversif de parler de deux acteurs homosexuels qui s'aiment, mais qui ne peuvent pas le dire au grand jour et qui incarnent justement le cavalier type héroïque à la John Wayne.
C'est le mensonge de l'image. Hein. Il est beaucoup question forcément d'image dans ce livre et de mensonge. Est-ce qu'on est transparent? Est-ce qu'il faut être transparent? Est-ce que c'est souhaitable? Pour un acteur, vraiment, la question se pose. Est-ce qu'il est juste une sorte de page blanche sur laquelle chacun projette des fantasmes, en fait? Peut-être que c'est ça qu'il faut être quand on est acteur. Je ne sais pas. La question est ouverte dans le livre, en tout cas, ouais.
La question du déni est très importante, évidemment, dans ce roman Gilles Leroy, parce que évidemment il y a censure, mais il y a aussi auto-censure.
Oui.
D'ailleurs, Paul Young, le grand amour de Bob, va finir par le quitter pour se marier, pour avoir des enfants, et ensuite faire de la politique. En tout cas, sans doute, pour correspondre à une image sociale moins compliquée que s'il était resté avec Bob. Et Robert, lui, en revanche, il va rester fidèle à ce qu'il est. Il va surtout rester dans le silence, peut-être dans la peur. Mais il m'a semblé le voir être rongé de l'intérieur par son impossibilité à dire sa vraie nature. Il va boire, il va prendre des drogues, il va un peu se perdre, il va arriver sur des tournages dans un état de fatigue extrême, où alors qu'il a beaucoup de talent, il ne peut plus aligner de répliques. Mais il était, je pense, impossible en 1955 à Hollywood qu'un acteur déclare son homosexualité. Ou vous avez un exemple, Gilles Leroy?
Non, il y a pas d'exemple, mais ce que Bob essaie, qui aurait pu avoir lieu, donc, hein, c'est là en pleine fiction justement, c'est de créer peut-être le premier couple homosexuel Hollywood. C'est-à-dire que Bob, alors ça je l'invente bien sûr, mais la chose est réelle. Il y a vraiment eu un jour, Cocteau est allé à New York.
Vous le citez d'ailleurs.
À une représentation. Il y est resté quelques temps et il a rencontré beaucoup d'acteurs, bien sûr, américains. Et j'imagine donc que Bob rencontre à New York Cocteau et que il découvre que Cocteau vit au grand jour avec un acteur. Donc c'est un couple homosexuel, comme c'était le cas effectivement à l'époque. Ça peut sembler étonnant aujourd'hui à Paris, en France, où il n'y a plus aucun acteur homosexuel officiellement. qu'à l'époque, quand même, Cocteau et Marais aient vécu au grand jour. Hein, c'est quand même étonnant. Et donc Bob, très impressionné par ça, voudrait vivre peut-être la même chose avec avec Paul à Hollywood. Et c'est ce qu'il lui propose. Mais après, on peut aussi, enfin, tout est ouvert, c'est-à-dire que sur les motivations de chacun, Paul, lui, après coup, devenu un vieil homme, dit, mais au fond, il a inventé cette histoire de mon mariage pour qu'on se quitte, et il a provoqué en fait la rupture afin de pouvoir continuer à lui à faire du cinéma, parce que c'était la seule chose qu'il aimait faire.
D'ailleurs, il y a un personnage qui dit cette phrase très belle, l'art a été plus fort que tout.
Oui.
Donc c'est l'art aussi qui sauve Bob du vide. Dans lequel il aurait pu tomber éventuellement ?
Oui, je crois que les gens qui se destinent à une forme d'art, quelle qu'elle soit, sont à la fois éventuellement détruits par leur art et sauvés in fine par cet art. Enfin, faut le souhaiter. Moi, je sais que, en tant qu'écrivain, à chaque fois qu'on a voulu me dévier de mon désir d'écrire et de ma destinée, qui était, je crois, à écrire, j'ai rué dans les brancards. Il m'est arrivé de rompre avec quelqu'un qui ne supportait pas que j'écrive, enfin, qui m'opposait de vivre autrement, par exemple. Donc ça, je peux comprendre qu'on préfère son art à qui que ce soit.
Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières en compagnie cette semaine de l'écrivain français Gilles Leroy, avec qui nous parlons de ce nouveau roman intitulé « Dans les westerns ». Alors ce qui est très important dans votre roman, Gilles Leroy, c'est que en effet, toute cette histoire nous est racontée à travers trois témoignages, on l'a dit, Paul Young, Joan Ellis, Lenny Lieberman. Trois voix, je me demandais, qui sont là pour exprimer tout haut ce que Bob ne peut pas dire.
Il y a ce jeu-là
parce que Bob, lui, on ne l'entend jamais.
Bob, on ne l'entend jamais et on le voit, j'allais dire, à peine, sinon l'image qu'il y a de lui sur les écrans et sur quelques photos. On ne le verra pas, en fait, le lecteur ne le verra pas. Il s'agissait quand même de parler d'amour. C'est bête à dire, mais quand même, le vrai moteur de ce roman, c'est l'amour. Et j'ai choisi ces trois personnages pour des raisons quand même assez particulières. C'est-à-dire que si Paul symbolise l'amour-passion, l'amour érotique, la passion charnelle, Joan Ellis, elle, symbolise l'amitié amoureuse dans tout ce qu'elle peut avoir d'ambigu, hein, puisque elle et Bob n'auront pas de lien charnel, mais ils s'aimeront vraiment tel un couple à certains moments. Et puis il y a cet autre attachement qui est l'attachement fraternel qui lie Bob à Lenny, son agent, son ami depuis toujours, avec qui il a partagé les galères de leurs jeunes années à 18 ans dans New York alors qu'ils n'avaient pas un sou en poche et qu'ils prenaient tous les jobs possibles pour survivre. Donc j'ai voulu parler de ces trois façons d'aimer, qui sont des façons d'aimer adultes, bien sûr. Et ces trois personnages, dans ce sens-là, forment pour moi une rosace, si vous voulez, un triptyque de l'amour, des différentes formes d'amour.
Mais Bob ne parle pas. Vous n'avez jamais eu la tentation de le faire intervenir à un moment dans le récit?
Non, j'ai voulu qu'il reste
dans ce mystère.
Qu'il reste une image, qu'il reste un mystère, une image et l'idole, quoi, l'idole, au propre non, mais l'idole qu'on adore, quoi. Et que ces trois personnes ne cessent d'adorer. Vous savez, adorer, ça veut dire aimer par le verbe. Et c'est vraiment de ça qu'il s'agit dans ce livre, en fait. Ce sont des gens qui aiment par leur verbe. C'est pour ça que la voix, laisser toute la place à ces trois voix, pour moi, était capitale.
Un livre sur l'amour, on l'a bien compris, Gilles Leroy, mais c'est aussi un livre contre toutes les formes de ségrégation, qu'elles soient sexuelles, raciales, religieuses ou politiques. Il y a tous, en arrière-fond, ces questions qui apparaissent dans le roman.
Ah oui, bien sûr, oui, parce que le cinéma, pour en revenir à lui et à ce milieu que je voulais décrire, le cinéma, pour moi, je vais peut-être choquer quelques personnes en disant cela, mais il reste d'essence américain. Et c'est vrai que il m'a toujours paru que le monde du cinéma américain, c'était comme une loupe grossissante des États-Unis. C'est-à-dire qu'on y retrouve tout. Quand on regarde comment ça fonctionne, le cinéma américain, hormis le fait qu'il agite les démons qu'il reproduit, qu'il met en scène les démons de l'Amérique, il fonctionne aussi économiquement comme les Américains, c'est-à-dire qu'il vit de l'immigration. Quand on regarde d'un peu près par qui sont faits les films, très souvent, on s'aperçoit que régulièrement, Hollywood se régénère avec des acteurs étrangers, des réalisateurs étrangers, des scénaristes étrangers. Et dans mon roman, je ne l'ai pas fait exprès. Au bout d'un moment, je me suis aperçu qu'il y avait énormément d'Européens, que beaucoup de si je parle de Douglas Sirk, par exemple, on oublie que c'était au départ un réalisateur allemand. Lockhart, donc mon héros, vient d'Écosse. Mais voilà, beaucoup de gens venaient aussi d'Italie, venaient de France. Donc tout ça a alimenté Hollywood, a alimenté le cinéma.
Hitchcock,
bien sûr,
Hitchcock. D'Angleterre.
Oui. Et voilà, donc c'est
Fritz Lang, on pourrait les citer.
Ah oui, non, mais vraiment, le cinéma, d'une certaine façon, a été fait par les Européens, mais comme le pays lui-même. Donc pour moi, le cinéma américain, c'est comme une métaphore de tout le pays américain. C'est pour ça qu'on y retrouve tout.
Mais surtout cette époque qui est très charnière, parce que c'est le moment où, voilà, il y a l'émancipation des femmes. Par exemple, Joanne, on voit bien qu'elle a plus envie d'être la petite fille modèle ou la petite amoureuse. C'est une femme qui a envie d'agir. Il y a l'émancipation de la communauté noire. Il y a la question des communistes qui aussi ont envie de s'exprimer. C'est quand même une époque très riche en mouvement de libération.
Ben c'est très tendu, oui, parce que d'abord, ce sont des luttes.
C'est ça.
Ce sont d'abord des luttes. Et c'est vrai que Joanne, elle est pour moi très importante, parce qu'elle est, elle représente ce combat des Américains aussi, parce que ce sont aussi des gens de combat, il faut pas l'oublier. Et Joanne, elle vient du New York intellectuel, c'est une juive new-yorkaise, elle a toujours grandi dans un milieu qu'on pourrait dire favorisé culturellement, puisque ses parents travaillent dans le théâtre, elle a été une enfant prodige, une enfant actrice à Hollywood toute petite. Bon, mais alors qu'elle pourrait vivre dans une sorte de bulle comme ça, de cage dorée, c'est quelqu'un qui regarde autour d'elle, qui s'intéresse au monde et qui veut changer le monde. Et ça ne la quitte pas, ça l'apprend à 17 ans et jusqu'à la fin de ses jours, c'est une vraie passionnariat. Alors c'est vrai qu'il y en a des causes à défendre entre la déségrégation, entre les droits des Indiens. Enfin, aux États-Unis, il y a énormément d'oppression quand même et de ségrégation. Et on pourrait dire d'une certaine façon que c'est pas fini.
Non, c'est ce que j'allais vous dire, parce qu'à la fois c'est une époque clé qui a fait beaucoup avancer la société américaine, et puis on se dit là, 70 ans plus tard, est-ce qu'on n'est pas un peu en train de régresser? Vous avez cette crainte, vous, Gilles Leroy, qui connaissez bien les États-Unis?
Oui, bien sûr. Là, en ce moment, on pourrait croire ça. Mais d'abord, je crois dans ce pays. Je crois vraiment à sa capacité à se ressaisir très vite et à lutter, parce qu'il y a une grande force. Hein. Il y a une sorte quand même de grande égalité des forces aux États-Unis. Hein. Donc, les forces de progrès et les forces obscures sont quand même un peu en nombre égal, quoi. Mais je crois aussi, et là, c'est pas que les États-Unis, je crois que dans ce monde, globalement, il n'y a pas d'éternel retour. Je crois pas à cette théorie d'éternel retour, mais je crois qu'il y a régulièrement des soubresauts de la bête. Que régulièrement, la bête a des tendances à vouloir revenir, à vouloir s'imposer encore, et qu'on traverse ça en ce moment, nous, dans l'Occident, enfin, et pas seulement en Occident, hélas, mais on traverse ça aux États-Unis, on traverse ça en Europe et en France. On a l'impression que la bête tente un retour, quoi, et c'est régulier, je crois que ça revient régulièrement, et le tout est de savoir s'il n'est pas plus important de compter les mètres qu'on a fait, les kilomètres qu'on a fait, que les quelques centaines de mètres qu'on essaie de nous faire à certains moments, et en ce moment particulièrement, quoi. Mais non, je crois globalement que les États-Unis vont s'en sortir, et qu'on va s'en sortir aussi. Mais c'est vrai qu'il faut toujours lutter et surtout être très 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 vigilant, parce que on voit bien que rien n'est acquis, que tout est fragile. Moi qui suis homosexuel depuis longtemps, enfin depuis mon adolescence, j'ai compris ça. J'ai vu la France progresser. Je la sens là un peu en recul. Je sens bien qu'il y a des si relent, la homophobie qui nous arrive et que vous ressentez forcément très fortement quand vous êtes concerné. Mais bon, voilà, globalement, il faut voir le chemin parcouru. Et je vous dis, les sursauts de la bête, cette tentation de revenir en arrière, je crois qu'elle est récurrente et qu'il faut pas, il faut être vigilant, mais pas désespéré.
D'où l'importance aussi de l'écrivain et de la littérature.
De l'écrivain, du cinéaste, des acteurs qui incarnent les personnages, bien sûr, l'art vraiment, la beauté sauvera le monde, hein, c'est dans L'Idiot de Dostoïevski, mais oui, je crois qu'il y a de ça. Il y a de ça, j'y crois encore, en tout cas, j'y crois.
Merci beaucoup, Gilles Leroy.
Merci à vous.
Je rappelle le titre de ce nouveau roman, Dans les westerns, qui a paru aux éditions Mercure de France.